troisième temps d'une semaine spéciale de la Fabrique de l'Histoire consacrée à la Grande Guerre et à sa mémoire, en partenariat avec la mission du centenaire de la Première Guerre mondiale et nos amis de Sur les Docks sur France Culture, qui diffuseront ce soir un documentaire de Marie Chartron et de Christine Robert, Moscou sur Marne, sur les fils et petits-fils de soldats russes en France. Après avoir écouté avant-hier les analyses de Christopher Clark sur la montée à la guerre dans son livre Les Somnambules, puis hier écouté le premier documentaire de cette série tourné en Nouvelle-Calédonie par Anaïs Quien et Françoise Camard, et avant demain de suivre une autre expérience coloniale, celle des tirailleurs de la Première Guerre mondiale au Sénégal, nous allons ce matin partir pour la Turquie sur les lieux de la bataille des Dardanelles. Perrine Kervran et Renaud Dalmar se sont rendus sur les lieux de cette terrible bataille de 1915-1916 dans les musées, les lieux de commémoration, les mémoriaux, pour tenter de comprendre la place qu'elle tient dans le récit national turc aujourd'hui.
Vurdular beni Çanakkale içinde.
Les chants populaires anonymes sur Çanakkale, sur Gallipoli, ils sont connus par tout le monde. Et ce sont des chansons très touchantes qui parlent aussi des morts de cette guerre. Et je pense que c'est plus touchant et plus sincère de connaître une guerre par les chants populaires anonymes.
La bataille des Dardanelles, aux ordres du récit national turc. Ulgur Gökhan, maire de Çanakkale.
La bataille de Gallipoli, qu'on appelle la guerre de Çanakkale, a eu lieu pendant la Première Guerre mondiale. Ce sont les dernières batailles menées par l'Empire ottoman. Et ce sont les guerres d'où a émergé le fondateur de la Turquie moderne, Atatürk. La République turque a été établie après ces guerres.
Je ne me rappelle pas trop de ce qu'on nous a appris à l'école, parce que c'est vrai que l'éducation de l'histoire à l'école, c'est pas très bien fait.
Bouquet Turkmen, sociologue à l'université de Galatasaray.
C'est le commencement d'une guerre anti-impérialiste pour nous. C'est la première guerre contre les Occidentaux qu'on a gagnée. L'ennemi occidental, non mécroyant, qu'on avait vaincu. Alors que maintenant, on parle de Çanakkale avec un ton beaucoup plus humain, en pensant aussi aux morts de celui qui est en face. Parce que c'est la guerre.
Ben, je me rappelle, à l'école, au lycée, bien entendu, on ne parlait pas du tout, par exemple, de la composition de l'armée ottomane.
Raghib Duran, journaliste.
Quand moi j'ai appris que le commandant sur place, le numéro 1 sur place, était allemand, alors là on se pose des questions. Comment, avec les Allemands, on peut remporter une victoire nationale?
Dardanelles, Gallipoli, Çanakkale. Trois noms pour un même épisode de la Première Guerre mondiale. Trois noms pour dire une bataille navale calamiteuse lancée par les Alliés à l'assaut du détroit des Dardanelles. Un désastre suivi d'un débarquement épouvantable qui donne lieu à un affrontement terrestre interminable et meurtrier sur la péninsule de Gallipoli, le tout conclu piteusement par le retrait des Alliés. L'objectif des Alliés, c'est le détroit des Dardanelles, pour avoir accès à la mer de Marmara, et donc à Istanbul et à la mer Noire. Et du coup, avoir un passage pour donner un coup de main à la Russie. D'un côté, les Alliés, Français, Anglais, Australiens et Néo-Zélandais, et avec eux, leur bataillon de troupes coloniales. De l'autre, l'armée de l'Empire ottoman, multiethnique et multireligieuse, alliée à l'Allemagne. Dans cette bataille, ce sont les Ottomans et l'Allemagne qui l'emportent. Mais tous ces efforts ont été inutiles. Puisqu'à la fin de l'histoire, comme chacun sait, ce sont les Alliés qui se partagent Istanbul, pendant que les Allemands se font humilier dans un wagon de train à Rotonde. En tous les cas, en Turquie, la bataille de Çanakkale est dans toutes les mémoires et de tous les discours politiques, revendiquée et brandie par tous. Et Çanakkale et son drôle de musée sont devenus des passages obligés.
On est donc dans le musée de Kaba Tepe, sur la péninsule de Gallipoli. où la bataille des Dardanelles, la guerre de Çanakkale, comme on dit en Turquie, est représentée dans des films en trois dimensions, des films à effets spéciaux, dans des salles où parfois le sol bouge, ou parfois les murs bougent, et qui remettent en scène l'intégralité de la bataille. Donc dans ce centre viennent des groupes nombreux qui arrivent en car, qui se garent sur le parking et qui remplissent le musée.
Oli, où sont les autres?
Ils sont tous mis hors de combat. Nous avons 14 morts et 24 blessés. Nous sommes, toi et moi, les seuls à être encore debout.
On vient d'entrer dans une salle, on est plongé dans le noir et là, il y a un film qui commence.
Je n'entends pas, allez, l'obus nous dit, place-moi dans le canon. Allez, aide-moi à monter l'obus sur mon dos.
Tu ne pourras pas le transporter, Saïd.
Et là, dans cette scène, on voit le héros de la séquence, Saïd Çabuk. Donc c'est l'homme à l'obus, hein, Çanakkale, il est représenté partout en statue. Et là, ce Turc colossal, moustachu, torse nu, est en train de hisser sur son dos l'obus de 275 kg et il va le glisser tout seul dans le canon.
C'est qu'en Turquie aussi, ça devient une sorte de mythe.
Avec l'aide d'Allah, mon commandant.
Les canonniers, etc., ont empêché les bateaux de faire passer, etc.
Gürsel Göncü, journaliste et auteur d'un guide des champs de bataille de Gallipoli.
Donc, c'est pas possible, bien sûr. Donc, mais surtout les calibres et les qualités des canons du temps des empires ottomans. Il peut faire quelques dégâts sur les bateaux, mais il ne peut pas l'empêcher. Donc, ce qui fait les canons turcs, disons, en réalité, c'est d'empêcher
le déminage
des démineurs. Et donc, c'était un grand succès pour les Turcs.
These mines which stopped the battleships.
Ces mines qui ont arrêté les navires de guerre ont été conçues par deux officiers.
Ayhan Aktar, historien à l'université Bilgi d'Istanbul.
Guido von Usedom, un amiral allemand, et Cevat Pasha, qui était un commandant d'artillerie turque. Ces deux-là ont conçu ensemble le champ de mines. Et ça a marché. Cette stratégie a été la bonne. Pour ouvrir le passage du détroit aux grands navires, les petits bateaux des mineurs devaient passer d'abord. Et l'artillerie turque ne pouvait pas couler les grands navires, mais elle pouvait couler les petits. Et c'était trop facile pour l'artillerie turque de les toucher et de les couler. Et tant que les lignes de mines sont là, quand on les touche, ça explose, non ?
Donc on est ce matin à Çanakkale, donc on est dans cette ville portuaire. Face à nous, il y a le détroit des Dardanelles, on est donc en Asie. Et de l'autre côté, il y a 1,5 km, à vol d'oiseau, il y a la péninsule de Gallipoli, qui est la partie européenne de la Turquie. Et donc on est dans un parc, une sorte de musée en plein air, un musée de la marine. Et dans ce parc, il y a donc des pelouses, des arbres, et sur les terre-pleins, il y a des mines, des torpilles, des bouées, et devant nous, il y a un bas-relief qui représente en fait la bataille des Dardanelles, la première bataille qui est vraiment la date célébrée, commémorée en Turquie, donc la date du 18 mars 1915. Et donc il y a un bateau, le Bouvet, qui a coulé en quelques minutes. Il y a eu 30 survivants sur à peu près 600 soldats qui étaient à bord. Et donc c'est la première grande victoire de cette bataille des Dardanelles pour l'Empire ottoman. Et puis donc dans ce musée, il y a beaucoup de familles avec des grands-parents, des parents, des oncles, des tantes, des enfants petits qui se photographient devant les canons, devant les bateaux, devant la mer, devant la péninsule de Gallipoli, et qui visitent le musée.
Des quatre coins d'Anatolie, surtout en ce moment-là, à partir de printemps-été,
Ragib Duran.
Je ne dirais pas des centaines, mais il y a des milliers de cars des gens qui sont transportés du petit village de l'Anatolie centrale, de la mer Noire. Ils font des voyages de, je sais pas, de 40 heures en bus pour venir visiter ces endroits sacrés.
Et ce sont des voyages qui sont payés par les municipalités ?
Essentiellement, ou bien par le parti au pouvoir, parce qu'on le voit, c'est la branche de jeunesse, la branche de femmes. Alors, tout au long de ces voyages, moi j'ai vu des vidéos qui sont projetées dans les bus, où c'est vraiment... Il y a tous les soldats qui meurent, juste l'imam qui reste vivant parce qu'il est imam, parce qu'il est croyant, etc. Donc, une propagande d'ailleurs assez maladroite à mon avis, mais qui influence ces gens-là, qui n'ont jamais quitté leur petit village, et pour la première fois, gratis, qui peuvent venir faire 200-300 kilomètres. Et donc, il y a à la fois la fierté nationale, la fierté religieuse, etc.
Starting from 1980, something interesting.
Ayan Akhtar.
There was also another undercurrent.
À partir des années 90, quelque chose d'intéressant s'est mis en place. Un autre courant s'est mis à présenter cette guerre comme une guerre islamique, une guerre contre les infidèles, contre l'occupation, une croisade. C'était un des récits, mais ce n'était pas encore devenu un des récits officiels.
Et qui étaient ceux qui parlaient d'une croisade ?
Certains des islamistes des années 90, des poètes et aussi des écrivains, ils évoquaient une guerre contre les infidèles. Mais ce n'est jamais devenu officiel. Et ensuite, à partir des années 90, ce sont les conservateurs nationalistes du gouvernement et les municipalités qui ont commencé à organiser des séjours à Gallipoli. Et si vous allez là-bas, je suis sûr que vous remarquerez les milliers de personnes qui viennent sur les champs de bataille et qui le vivent comme un pèlerinage à la Mecque. Et maintenant ce gouvernement, celui d'Erdogan, qui a pris le pouvoir il y a 2 ans. Ils ont organisé un événement pendant le mois saint du Ramadan, qui en ce moment tombe en été. L'organisation AKP du district d'Istanbul, ils ont dit, nous allons faire un menu spécial pour la rupture du jeûne sur le modèle du menu des martyrs. En quoi est-ce que cela consiste ? Le menu des martyrs, c'est par exemple une soupe de blé concassé, du riz bouilli de mauvaise qualité, des choses très grossières. Et des milliers de gens se sont réunis. L'organisation de l'AKP a mis en place des services de bus qui ont emmené des gens jusqu'à Gallipoli. Et cela a été présenté comme si la pauvre armée turque avait combattu avec difficulté et sans aucun moyen. Mais si vous vous penchez un peu sur les mémoires des officiers, ce n'était pas le cas. Ils étaient bien nourris. Il y avait de la nourriture en abondance, et certains racontent même qu'on leur distribuait du tabac tous les 10 jours.
Les islamistes ont souhaité présenter la guerre comme gagnée, la bataille des Dardanelles, gagnée essentiellement par la foi.
Alexandre Toumarkin, historien à l'Orient Institut d'Istanbul.
Le premier ministre turc Tayyip Erdogan, quand il s'est rendu en 2013 au Sénégal, a tenu pour la première fois un discours extrêmement virulent sur la manière dont les contingents sénégalais avaient été dupés par l'armée française et s'étant aperçus une fois débarqués dans les Dardanelles ou dans la région de Kumkale qu'ils avaient à combattre un empire, mais un empire musulman, ils se seraient retournés contre leurs officiers qui les auraient désarmés, internés dans des camps et qui les auraient exécutés. J'ai cherché désespérément s'il pouvait y avoir l'once d'une vérité dans ce discours, en me disant voilà, on est peut-être prisonnier de notre propre regard colonial. J'ai demandé à aussi des collègues qui avaient un regard critique sur l'utilisation des troupes, ce qu'on appelait la force noire pendant la guerre, et des troupes africaines. Malheureusement pour le Premier ministre turc, ce n'est pas le cas.
Last year, they invited
Ayan Akhtar.
Some individuals from Palestine, from Lebanon,
l'année dernière, from Bosnia, ils ont invité des personnes de Palestine, du Liban, de Bosnie, dont les grands-parents ont combattu dans cette guerre. Et ils ont comparé cette diversité de l'armée à la façon dont les communistes américains ont rejoint la guerre civile espagnole. Et ça n'a rien à voir. À cette époque, la Palestine était ottomane. Ils n'avaient pas le choix. S'ils étaient appelés, ils devaient y aller et combattre. Les règles étaient claires. C'était une guerre générale. Et c'est vrai qu'il y avait des Bosniaques et des Albanais qui vivaient en Turquie. Ils s'étaient réfugiés là après la guerre des Balkans. C'était normal. Mais ils le présentent comme si c'était un effort de solidarité des musulmans, ce qui est absolument faux. Çanakkale içinde aynalı çarşı
bana ben gidiyor. Donc là on est dans une salle qui reproduit les tranchées qui étaient donc sur le sommet de la péninsule de Gallipoli, les tranchées où se faisaient face les Australiens et les Turcs. Et donc là, on est vraiment dans les conditions réelles. Il y a des fumigènes aussi autour de nous qui créent une ambiance guerrière. C'est un film un peu, on pourrait dire, à grand spectacle, avec beaucoup de ralentis, avec des balles qui explosent, de la terre qui jaillit sur l'écran. C'est un film fait pour impressionner.
Les deux parties vivent les jours les plus sombres et les plus difficiles au front. La faim se mêle à la misère, les maladies aux blessures. C'est une guerre sans pitié.
Ils ont été silencieux, ils l'ont rencontré le soir.
Alors on est à Anzac Cove, donc qui est l'endroit où les Australiens ont débarqué puis ont essayé de grimper la colline pour prendre la péninsule de Gallipoli. On est là avec Robin Pryor devant un plan qui est installé sur le monument australien, un plan qui montre le détroit des Dardanelles qui mène à la mer de Marmara et la péninsule de Gallipoli et le reste du territoire turc qui commence. L'idée peut-être serait de comprendre, Robin Pryor, comment et pourquoi on a décidé de cette attaque terrestre après cette attaque navale qui n'a pas fonctionné.
They landed, the first troops landed on the morning of April the 25th, about 4:30 in the morning.
Les premières troupes ont débarqué le matin du 25 avril à 4:30 du matin, juste derrière l'endroit où nous nous trouvons maintenant.
And there were about,
de la petite pointe là-bas jusqu'ici, ils étaient environ 3000 soldats australiens. Ils affrontaient 200 Turcs. Quelques heures plus tard, ils étaient 5 à 6 000 Australiens ici. Mais si on regarde derrière nous, vers les terres, vous voyez la façon dont le terrain oblige les gens à se diviser en petits groupes pour escalader ces falaises sableuses. Ils se sont rassemblés là-haut. Mais cela a demandé du temps, car c'était la confusion parmi les unités. Il faisait noir et les cartes étaient fausses. Le temps qu'ils reforment leurs unités, les Turcs, eux, avaient commencé à arriver sur le champ de bataille. Alors les Australiens ont rencontré les Turcs, dont certains étaient menés par Kemal. À ce moment-là, en gravissant la pente, ils se sont arrêtés là, et grosso modo, ils n'ont pas été plus loin au cours des 8 mois qui ont suivi. Et il y a eu encore 3 débarquements qui ont échoué sur la pointe, et c'est à ce moment-là que les Alliés ont décidé d'évacuer.
On pourrait dire qu'un des problèmes qu'ont rencontré les...
Alexandre Toumarkine.
Les Alliés, c'est qu'ils n'ont jamais réussi à surprendre les Ottomans et les Allemands. Ils n'ont jamais eu non plus le courage de lancer des opérations plus importantes. C'est une expédition qui est menée probablement sans les moyens nécessaires pour la faire triompher, non pas dans l'immédiat, mais sur le long terme, parce que pour les états-majors britanniques et français, la guerre se joue encore sur le front occidental et qu'il n'est pas question de dégarnir ce front pour tenter une opération de grande envergure dans les Dardanelles.
Et quel était l'enjeu? C'était l'accès à la mer Noire?
Il y a un double enjeu. Il y a d'abord l'idée de créer cette possibilité d'aider par la mer et par le sud l'armée russe. Alors, les Dardanelles, c'est quelque part aussi le rappel qu'il y a des ambitions impérialistes concurrentes, qu'elles existaient déjà avant la guerre, entre Britanniques, Français, Russes notamment, pour ne citer que les trois alliés, et que quelque part, cette opération, même si elle est conçue d'une manière unifiée, est aussi le lieu des rivalités et de la compétition des impérialismes occidentaux dans l'Empire ottoman.
Ma chérie, j'ai passé quelques instants avec l'aumônier du bord, qui m'a donné des renseignements sur le navire et aussi sur ce qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire les Dardanelles. D'après lui, le débarquement commencera aussitôt. Donc il est très probable que dès le lendemain, nous nous mesurerons avec ces Turcs, qui d'après les enseignements revenus de là-bas, font la guerre en sauvage, en barbare, comme les Boches, par qui d'ailleurs ils sont conduits et commandés. Eh bien, je t'assure que moi non plus, je ne ferai pas la guerre avec du sentiment. J'en prends à témoin les vieillards, femmes et enfants, tués, noyés et martyrisés par ces bandits. Et je t'assure que ceux qui se trouveront à portée ne seront pas épargnés et paieront pour toutes les innocentes victimes de cette race infâme. Et les plus douces caresses de celui qui t'aime, Julien.
C'était une guerre sans merci.
Ayan Akhtar.
Un vrai massacre. Sur une si petite péninsule se trouvaient 500 000 soldats. Il y a eu 100 000 morts du côté turc et à peu près le même nombre du côté français et britannique. C'était une bataille catastrophique. Parfois, les tranchées étaient distantes d'à peine 15 mètres. Je veux dire que si on se levait, on était touché immédiatement. C'est pour cette raison qu'ils creusaient des tunnels.
Des deux côtés ?
Oui, des deux côtés. Pour apporter des munitions et bombarder dans l'espoir de gagner une position.
Chère maman et papa, la blessure de mon bras est presque guérie, mais mon bras est encore inutilisable. Toute la nuit de lundi, le feu des Turcs a été incessant et ils nous chargeaient constamment à la baïonnette. Là, j'ai tiré sur deux Turcs qui rampaient au loin. Je les avais parfaitement en ligne de mire et je leur avais logé trois balles chacun pour la route. Ma position était sûre, et là, juste en dessous, à l'abri du regard des terribles Turcs, il y avait un petit ravin avec une source au fond, et on s'y laissait glisser pour prendre de l'eau et se faire du thé ou du bouillon, voir les deux si ça nous chantait. Mais il fallait qu'on le fasse à la vitesse de l'éclair pour ne pas être dans la ligne de mire de la douzaine de snipers.
Les Britanniques étaient obligés de faire venir de l'eau d'Égypte. Je ne sais pas si vous imaginez. il était impossible de ravitailler correctement en munitions ou en nourriture ces milliers de soldats. Il faisait trop chaud en été. Il y a même eu une tempête de neige en novembre, et dans cette tempête, de nombreuses personnes sont mortes. Cela semble incroyable, mais c'est arrivé. Quand j'ai lu cela dans les sources britanniques, je ne l'ai pas pris au sérieux. Mais quand j'ai lu la même chose dans les sources turques, là, je me suis dit que c'était vrai. Il pleuvait, c'était l'enfer. La pluie devenait la neige, et avec les inondations, les pauvres bougres se sont noyés. Les Britanniques et les Français étaient positionnés sur le rivage, et toute l'eau dévalait sur la plage.
Je n'ai vu que 4 jours de combat, mais j'en ai vu assez pour me convaincre que c'est une horrible besogne. Tout le prestige disparaît quand on regarde les lignes ennemies, qu'on est dans leur ligne de mire, qu'on entend leurs balles exploser tout autour de soi, qu'on voit ses camarades morts ou agonisant à côté de soi et qu'on entend gémir les blessés. Je vous écrirai bientôt. Votre fils, Bert.
Oui, les pertes ont été élevées par rapport au nombre de troupes.
Robin Pryor, historien, à l'université New South Wales de Canberra.
There are about 390,000 casualties here.
Il y a eu 390 000 morts ici. C'est beaucoup, au vu des troupes, mais c'est peu sur 8 mois. Sur le front ouest, par exemple, dans la Somme, en 4 mois, il y a eu 1 million de morts. Je ne cherche pas à minimiser les combats ici, qui étaient très intenses et rapides, mais ça n'était rien comparé au front d'Ouest. Et c'est lié au manque d'artillerie ici. L'artillerie a causé les 2/3 des morts de la Première Guerre mondiale. Mais ici, il n'y en avait peu. Alors, les ratios de morts étaient moins importants. Bien que les combats ici aient été féroces, et ça n'était rien comparé au front d'Ouest.
Chère maman, glorieuse mère turque, qui a donné naissance à 4 soldats. J'ai reçu ta lettre alors que j'étais assise sous un poirier, dans une prairie verdoyante. Ta lettre a redonné du courage à mon âme, qui est transportée par la beauté de la nature. Je suis heureux d'être ici pour une mission sainte. J'ai regardé au loin le vent courber les épis, comme s'il saluait la lettre de ma mère. À ma droite, je pouvais voir de magnifiques pins qui me faisaient parvenir de bonnes nouvelles. À ma gauche, le ruisseau chantant me souriait, rempli de joie par la lettre de ma mère. C'est à ce moment que mon ordonnance m'a proposé du thé avec du lait, un lait de brebis frais et nourrissant, acheté à un berger. Et je pensais que ce lait avait été payé avec l'argent que ma chère mère m'a envoyé. Malheureusement, ma mère ne peut en avoir, elle doit s'en priver. Mais si elle était un homme, elle serait là, à ma place, en train de contempler la nature. Mes soldats font la lessive. Ils font partie de ce tableau verdoyant. L'un d'eux est en train de prier. Cette prairie est aussi belle que sa voix. Dieu des Turcs. La nation appartient à cette verte prairie. Et à ces montagnes majestueuses. Mon Dieu, accorde ce trésor à la nation turque. Cette nation qui glorifie ton nom mérite ces beaux endroits.
J'ai l'impression que les Britanniques et surtout les Australiens qui sont venus là ne s'attendaient pas à une
résistance aussi farouche de la part des Ottomans qui s'étaient fait piteusement battre pendant la guerre balkanique, etc.
Ahmed Kouyache, historien à l'université Galatasaray.
Ça les a surpris du point de vue de la défense de la terre nationale, parce que n'oubliez pas, derrière la tranchée, c'est la mère patrie. Une des phrases les plus importantes qui ont été utilisées là-bas. Quand les Britanniques ou les Australiens, etc., ont débarqué, le Turc, hein, le poilu, ou le Johnny, du point de vue britannique, c'était Abdul. Après quelques mois de combat, Abdul est devenu Johnny Turk.
Oui, c'est ça qui est important, parce que pour les deux côtés, avant la guerre, il y avait une telle propagande avec...
Gürsel Gonju.
C'est la même chose à peu près. Il disait que le côté, ce sont des monstres, etc. Ou bien, au côté turc aussi, des gavours.
Oui, des barbares.
Des barbares, etc.
Et d'ailleurs, c'est très visible dans les mémoires, que ce soit d'officiers ou de simples soldats.
Si on lit les lettres et les journaux des soldats australiens de l'époque, c'est intéressant de remarquer qu'il n'y avait aucun sentiment de camaraderie pour les Ottomans. Aucun. Les Australiens avaient l'attitude traditionnelle raciste des gens de l'Ouest pour les gens du Moyen-Orient. C'est devenu un mythe désormais de cette campagne, de prétendre qu'ils étaient de bons amis et qu'ils n'auraient pas dû s'affronter. C'est un très bon message pour aujourd'hui, mais ça n'était pas vrai à l'époque. Le premier jour de la bataille, le 25 avril, aucun des deux côtés n'a fait de prisonniers. Il n'y en avait pas. Tous les blessés ont été abandonnés et exécutés sur le champ. Mais c'est devenu l'un des mythes de Gallipoli. Les Turcs maintenant participent aux marches des Anzac Day en Australie. C'est quelque chose qui aurait été inimaginable avant. Mais je crois que cela a à voir avec le fait que les Turcs sont des ennemis secondaires. Je ne peux pas imaginer, par exemple, des Allemands marcher lors de nos cérémonies militaires, car lors des deux dernières guerres mondiales, ils ont été les ennemis principaux. Ça pourrait arriver, je ne suis pas devin. C'est d'ailleurs bien arrivé avec les Turcs. Et ça, je ne l'aurais pas prédit non plus.
Voici la conversation entre Mustafa Kemal et le soldat en retraite.
Soldat, pourquoi donc fouillez-vous ?
Les ennemis, mon lieutenant.
Où ça ?
Là.
On ne fuit pas l'ennemi.
Nous n'avons plus de munitions.
Si vous n'avez plus de munitions, vous allez aux baïonnettes. Fixez vos baïonnettes, couchez-vous par terre. Je ne vous ordonne pas d'attaquer. Je vous ordonne de mourir. D'autres forces et d'autres commandants prendront notre place jusqu'à ce que nous mourions.
Alors, bon, d'abord, on ne sait pas si Mustafa Kemal a prononcé cette fameuse phrase ou non. On sait par contre qu'elle a été très tôt...
Alexandre Toumarki.
Comment dire, utilisée par... ceux qui contribuaient justement à la construction de son charisme. Bref, la bataille a été, et depuis le début, c'est-à-dire depuis même l'année 1918, instrumentalisée d'abord par Kemal et ses amis lui-même, ensuite par les tenants du kémalisme, pour mettre en scène le grand leader dans, on va dire, la construction de son charisme. La bataille étant, on va dire, réactivée plutôt dans les années 60. C'est à ce moment-là, fin des années 50, début des années 60, qu'est érigé cet immense cube qui se trouve à la pointe de la péninsule et qui, grâce à la contribution d'un quotidien turc, qui va lancer une grande souscription. Cette anecdote pour dire que finalement l'État n'est pas au rendez-vous de cette mise en place des commémorations qui va être très longtemps plutôt orchestré par les militaires, comme c'est le cas pour les autres commémorations. Les choses changent probablement à partir des années 80, après le coup d'État, d'abord parce que la junte militaire qui est au pouvoir après le 12 septembre 80 va vouloir donner encore plus de poids, donner encore plus d'éclat à ce culte de la personnalité de Mustafa Kemal. Héroïser, c'est le mot qu'on utilise en turc pour rendre compte de la bataille des Dardanelles, et destan. Destan, ça veut dire l'épopée. C'est donc quelque chose qu'on va traiter sur un mode épique. Ça veut donc dire que les livres qui vont raconter cette bataille pourront à la fois être des productions historiographiques, mais pourront être aussi des récits à mi-chemin entre récits scientifiques et fiction. Les lecteurs ne faisant pas forcément la différence entre les uns et les autres. Et je crois que c'est une chose qui est liée à la nature même de la bataille, en tout cas de la manière dont elle a été érigée en épopée nationale. Quand vous lisez, par exemple, ce qu'on peut enseigner aux enfants dans les écoles, quand vous allez sur les sites de la bataille aujourd'hui, vous avez l'impression que Mustapha Kemal, avec son régiment, avec ses hommes, a gagné tout seul cette bataille. Alors, toute cette lecture avec, au centre, ce personnage de Mustapha Kemal, les islamistes ont souhaité la faire voler en éclats. Les années 2000, à un moment où les négociations avec l'Union européenne sont un peu un carrefour, hein, c'est les années 2003-2004, des négociations sur Chypre aussi, et à ce moment-là, on se rend compte que la bataille des Dardanelles devient finalement plus qu'une commémoration, elle devient une sorte de slogan qui rappelle à la Turquie combien tous ces mouvements d'intégration peuvent lui être funestes, comment elle peut y perdre son identité, comment elle peut y perdre son unité.
Dans l'idée, Alexandre Toumarkin, que cette bataille était une bataille pour repousser l'étranger.
Oui, c'est une. Si vous voulez, si on prenait le slogan des républicains pendant la guerre d'Espagne, « No pasaran », les Dardanelles, c'est le « No pasaran » du national-souverainisme turc aujourd'hui. Jusqu'au moment où les islamistes ont souhaité, là, probablement au tournant des années 2000, finalement, ils sont arrivés à une forme de synthèse, voire même de symbiose avec ce récit qu'avaient proposé les nationaux souverainistes, qu'ils avaient vaincus dans les élections, mais c'est probablement ce qui est très troublant dans cette histoire, c'est que les islamistes gagnent politiquement, mais le national-souverainisme, quelque part, gagne idéologiquement. Et la bataille des Dardanelles, la manière dont elle est lue et commémorée aujourd'hui, le montre probablement très très bien.
Aujourd'hui, si vous partez dans des endroits où l'éducation n'est pas très très solide, hein, beaucoup de jeunes turcs peuvent très bien vous dire que la bataille des Dardanelles fait partie de la lutte nationale de 1919, 1922.
C'est quelque chose qu'on apprend à l'école, à cause de la présence de Mustapha Kemal.
Ayan Akhtar.
C'est présenté comme une préparation à la guerre d'indépendance turque, alors que ça n'a rien à voir. La bataille de Gallipoli commence en 1915 et se termine dans les premiers jours de 1916. Quand les Britanniques se sont retirés. La résistance turque a commencé en mai 1919. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a au moins 3 ans entre les deux. Mais ils ont escamoté ces 3 années de l'histoire et ont placé Gallipoli dans la guerre d'indépendance turque, ce qui est absurde à mon avis.
On marche entre les pelouses, il y a autour de nous des obus, des torpilles, des mines, des sous-marins et des vieilles ancres de marine. Et puis on croise aussi une grande mosaïque vernissée, alors avec des tons mauves et orangés, une mosaïque sur laquelle il y a un soleil dans lequel s'incruste le visage de Mustapha Kemal, bien sûr, qui éclaire et qui protège de ses rayons puissants et bienfaisants la bataille navale de Çanakkale, qui est la victoire ottomano-germanique du 18 mars 1915. Et quand on suit les allées, il y a une petite salle dans laquelle on va rentrer, une petite salle que personne ne visite. On est les seuls visiteurs, une salle faiblement éclairée avec quelques vitrines et des tableaux. On est suivi par un marin qui garde le musée. Et donc là, ce sont des fusils, des Mauser, donc allemands, des fusils allemands, puisque les soldats ottomans utilisaient des armes allemandes pour la plupart. Mais il n'y a aucun panneau qui explique le déroulement de la bataille ou qui explique où elle a eu lieu, comment elle s'est déroulée. Et donc là, ce sont des objets qui ont été trouvés sur la plage, j'imagine. These are things that were found on the...
In French, English.
Découvert des boîtes de conserve, des pelles qui servaient à creuser les tranchées. Et il y a aussi des cimetières sénégalais. Donc là, il y a une photo d'un des bataillons qui combattait à Tchanakalé. Une vieille photo, ils sont tous assis en tailleur avec leurs fusils à baïonnette à la main et leur casque.
One of the miscalculations of the Allies was this.
Mais une des erreurs de calcul des Alliés était celle-ci. Ils pensaient que l'armée ottomane serait la même armée ottomane que lors de la guerre des Balkans.
Ayan Akhtar.
Mais Enver Pacha, qui était devenu ministre de la guerre juste après, a mis à la retraite anticipée plus de 1200 officiers. Les vieux officiers qui n'avaient pas fait l'école militaire et qui étaient des soldats traditionnels. À leur place, il a appointé de jeunes personnalités comme Mustafa Kemal, par exemple, qu'il a fait lieutenant-colonel. Il commandait une division de l'armée ottomane. Ça voulait dire 10 500 soldats.
Finalement, toute l'armée ottomane a été rénovée.
Elle a été rénovée au point que l'armée ottomane était dirigée par des officiers qui avaient reçu une éducation prussienne. Le responsable de cette éducation était Kolmar Freyer von der Goltz, un général allemand venu en Turquie dans les années 1890 en tant que conseiller de l'académie militaire. Von der Goltz avait une grande réputation en Turquie. Il était là pendant la guerre. Il a été deux fois sur le front de Gallipoli et il est mort à Bagdad.
Et l'erreur des Alliés a été de sous-estimer l'armée ottomane.
Oui, ils l'ont sous-estimée.
Et c'était à cause de la guerre précédente, la guerre balkanique.
Ça a été une véritable catastrophe. Et les Alliés avaient cela en tête. Et les Ottomans l'avaient aussi en tête. Ils se disaient, nous avons vécu un désastre lors des guerres balkaniques, et nous n'allons pas en vivre un second. Mais la guerre, c'est autre chose. Il y a certaines batailles que l'on peut gagner, mais qui n'empêchent pas de perdre la guerre. Et c'est ce qui s'est passé finalement.
1880, en fait, après la guerre de 1870, quand les Ottomans, comme beaucoup de puissances européennes, se disent que la grande puissance militaire européenne, désormais, ça n'est plus la France, c'est...
Alexandre Toumarkine.
Ce qui était la Prusse et ce qui est devenu l'Empire allemand. Et après quelques années d'hésitation, Abdulhamid va décider de s'appuyer sur les conseillers militaires allemands, une mission militaire allemande, l'armement allemand. De toute évidence, les buts de guerre de l'Allemagne et de l'Empire ottoman ne sont pas exactement les mêmes, les arrière-pensées non plus, mais il y a objectivement une alliance qui va tenir le temps de la guerre.
Pourquoi l'Empire ottoman entre dans une guerre qui n'a rien à voir avec lui ?
Ahmed Kouyache.
De peur de la Russie. Parce que vous n'avez pas besoin de la Première Guerre mondiale pour avoir peur de la Russie, du point de vue de Constantinople. Donc, supposez qu'il y ait une guerre à laquelle les Turcs ne participent pas, ça se termine avec une victoire franco-anglo-russe. Et deux ans plus tard, les Russes, pour une raison plus tard, ils sont arrivés il y a quelques semaines à Crimée, auraient débarqué à Istanbul. Donc il valait mieux, en 1914, se joindre aux ennemis des Russes pour que cette possibilité ne soit jamais possible. Mais par contre, on peut dire que l'historiographie turque n'a pas fait grand honneur à la participation germano-autrichienne Et parmi ces héros, il y a quelques Allemands, il y a quelques Autrichiens, des Allemands, surtout des équipes de mitrailleurs, et des Autrichiens parmi les artilleurs. Mais par contre, c'est raconté aux petits-enfants comme une histoire turco-turque. Il n'y a pas de régiment arabe non plus. Okay, il n'y a pas d'officier allemand, il n'y a pas de régiment arabe, c'est la Turquie, ce sont les Turcs qui défendent la Turquie. Là, on peut en parler, oui, c'est vrai.
Quand je parle de Gallipoli et de la Première Guerre mondiale, j'utilise toujours le terme ottoman.
Ayan Akhtar.
Quand l'histoire militaire turque a été écrite à la fin du XXe siècle, cette guerre a été transformée en une guerre turque. Comme par exemple, dans les intitulés de l'histoire officielle. La guerre turque dans la Première Guerre mondiale et sur le front de Gallipoli. Et cela dure. Malgré le fait que l'on sache que les officiers de l'armée ottomane étaient grecs, arméniens ou juifs. Il y a 2 ans, j'ai publié les mémoires d'un officier d'artillerie arménien, le capitaine Sarkis Tansian. Il était diplômé de l'académie militaire et il s'est battu à Gallipoli. Il y avait de nombreux médecins militaires arméniens. Je me souviens que j'avais un grand ami à Istanbul qui était un diplomate grec. Un jour chez lui, je vois une médaille dans son salon et je lui dis « Regarde Alexis, mon vieil ami, ceci est une médaille de Gallipoli autant que je sache. » Il a dit oui. Et j'ai dit « Mais à qui appartenait-elle ?» Et il me dit « À mon grand-père. » Il était pharmacien dans l'armée ottomane. Et selon les mémoires d'Essat Pacha, parmi les soldats ottomans, il y avait 3% de soldats arméniens. Et c'était le cas en mars 1915. Cette histoire a été turquifiée. Au lieu d'utiliser le terme « ottoman », ils ont utilisé le mot « turc ». Le processus général de turquification de la formation de l'État turc a déclaré que c'était une guerre turque.
Et aujourd'hui ?
Le gouvernement d'Erdogan présente Gallipoli comme une croisade. Et c'est pour cette simple raison que l'existence d'un officier d'artillerie arménien dans l'armée ottomane devrait être passée sous silence. Ce n'est pas quelque chose que l'on a envie d'entendre. Si vous y pensez, c'est totalement absurde. Oui, bien sûr. Peut-être que des soldats ordinaires sont morts au nom de Dieu, c'est compréhensible. Je suis sûr que des soldats catholiques du front belge sont morts aussi pour Dieu. Mais la logique de l'Empire ottoman, à cette époque, n'était pas celle-là. Ils étaient en train de tenter de construire un patriotisme ottoman, ce en quoi ils ont plus ou moins réussi, car les gens ont répondu à l'appel de la conscription. Ils ont rejoint les unités militaires pour entrer dans l'armée. Ce qui est intéressant, c'est que 2015, c'est aussi le centenaire du génocide arménien. Et la logique d'Erdogan est la suivante. Ils vont dire que plus d'un million d'Arméniens sont morts, mais que des Turcs aussi sont morts dans les batailles. Mais ces morts ne sont pas les mêmes. L'un meurt son fusil à la main en tentant de défendre son pays, l'autre meurt massacré sur la route du désert syrien. C'est la mort à l'arrivée, mais l'un défend sa mère patrie, et les autres sont des civils, des femmes, des enfants déportés de leur village, contraints de marcher dans les déserts syriens et massacrés sur la route. Donc, l'attitude du gouvernement actuellement est de tenter de se livrer à une concurrence mémorielle, en disant « Nous sommes morts sur le front et vous êtes morts dans les déserts. » Mais ça n'a rien à voir.
Et on ne peut pas faire une telle mise en concurrence. Ce n'est pas convenable.
Si l'on doit essayer de comprendre, je dirais, une des fonctions, mais une des fonctions importantes de cette commémoration des Dardanelles aujourd'hui, c'est qu'elle vient buter en quelque sorte contre la commémoration du génocide arménien. Elle est l'événement qui devrait effacer les traces, qui devrait effacer le poids, les séquelles de cette commémoration, de cette inquiétude de voir de nouveaux pays reconnaître le génocide arménien ou le pénaliser. Donc elle est quelque part le pendant de ce qui se passe de l'autre côté, dans les provinces orientales et vers le Caucase.
Vous diriez, Alexandre Toumarkine, finalement, qu'il n'y a pas encore eu un historien ou une histoire de la bataille des Dardanelles ?
Non, il n'y a pas eu d'histoire de la bataille, parce que je crois que le fait que toute cette furia commémorative, tout ce dispositif qui requalifie la bataille, qui finalement lui donne de nouvelles missions politiques, qui l'instrumentalise, je crois que d'abord ça fait peur aux historiens, et qu'ils n'osent pas trop y mettre leur nez. Ils ont peur aussi d'être la voix qui va finalement proposer une autre lecture d'un mythe national, mais qui a été revivifié aujourd'hui. On peut quand même penser que la bataille des Dardanelles est une bataille inclusive, est une bataille finalement dans laquelle les islamistes, les Kurdes et même d'autres composantes musulmanes de l'Empire pourraient se retrouver sans problème, les républicains bien sûr autant que les autres. Et j'aurais envie de terminer sur ce point. Finalement, c'est comme si s'opérait sous nos yeux en ce moment le transfert d'un mythe fondateur vers un autre, beaucoup plus malléable, beaucoup plus plastique, beaucoup plus fédérateur, c'est-à-dire le passage de la guerre d'indépendance comme mythe, comme ciment national à la bataille des Dardanelles.
Merci à Ayan Akhtar, Ragib Duran, Ulgur Gokan, Gürsel Gonju, Ahmed Kouyash, Robin Prior, Alexandre Toumarkine et Buket Turkmen. Merci aussi à Onu Roser et à Samim Aggonul. Prise de son et mixage Alain Joubert. Lecture Nathalie Canoui. La bataille des Dardanelles aux ordres du récit national turc, un documentaire de Perrine Kervran, réalisé par Renaud Dalmar.
Voilà pour ce deuxième documentaire de notre série spéciale de la Fabrique de l'Histoire consacrée à l'impact de la Grande Guerre sur les 5 continents, et merci à la mission du centenaire de la Première Guerre mondiale qui a rendu possible cette série. Demain, nous partirons pour le Sénégal avec Séverine Yatar et Véronique Samouilov. Pour compléter cette série, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site franceculture.fr. Vous y trouverez des photos qui accompagnent chacun de ces documentaires, mais aussi, c'est exceptionnel, une balade dans l'exposition L'été 14 qui se tient ces temps-ci à la Bibliothèque nationale de France.